bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Patara, le débat politique de Radio Nekeluka. La coalition de l'opposition démocratique 2020 exige l'annulation de la mise en place de nouveaux membres de l'autorité nationale des élections. Aussi, la société civile demande l'audit du fichier électoral. Voilà les points qui enrichiront le débat politique d'aujourd'hui. En effet, dans 2 mois, les centrafricains seront appelés aux urnes pour élire leur président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Mais des voix, plus précisément celles de l'opposition démocratique, continuent de s'élever pour contester le processus en cours. En dépit de quelques irrégularités constatées, le pouvoir, lui, estime être sur les rails pour la tenue des scrutins dans le délai constitutionnel et surtout dans la transparence et la crédibilité. Question, est-ce que la COD 2020 est dans la logique de boycotter le processus électoral? Pourquoi chaque étape du processus, l'opposition démocratique dénonce toujours des dysfonctionnements? Est-elle vraiment prête pour participer au scrutin? Le pouvoir veut coûte que coûte remporter la présidentielle de le premier tour. A-t-il mis en place un plan d'un hold-up électoral? Demander l'audit du fichier électoral. Est-ce que l'autorité nationale des élections ANE et le gouvernement vont accepter de répondre à cette exigence, à cette allure? Le gouvernement peut-il vraiment organiser une élection crédible, apaisée et sans contestation? Voilà tant de questions qui serviront de support à ce débat politique. Et bien, pour en débattre, nous recevons autour de cette table et dans le studio B de Radio Nekeluka, Paul Cressan-Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile et leader du M4500. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Salomon Kobo Zanedoka, secrétaire exécutif permanent de la COD 2020. Monsieur, bonjour.
Bonjour, Armando.
Monsieur Fidel Guantika, ministre et conseiller spécial du président de la République. Monsieur, bonjour et merci pour votre présence à ce débat.
Toujours au service du peuple souverain. Bonjour.
Au centre du débat, je suis Armando Nguendi, accompagné de Rodrigue Leroy Benga. Rodrigue, bonjour.
Bonjour, Armando.
La partie technique est assurée par Tarsis Banga. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Nekeluka.
Voilà, Rodrigue, ouvrons le bal avec vous, Monsieur Salomon Kobo Zanedoka. Qu'est-ce qui justifie la motivation de la COD 2020 qui exige l'annulation et la reprise de sélection de nouveaux membres de l'Autorité nationale des élections ANE?
Merci, Armand, de m'avoir posé cette question. Je pense que nous sommes dans un processus électoral qui a plusieurs étapes. Et parmi ces étapes, nous pouvons compter à la mise en place de la nouvelle ANE, qui est une exigence constitutionnelle. Et il vous souviendra que l'ANE, qui était un organe technique d'organisation des élections, a été érigé à partir de la constitution de 30 mars 2016 à une institution. Et donc, il était question que 12 mois après la prestation de serment du chef de l'État, qu'il puisse mettre en place effectivement toutes les institutions de la République dans cette ANE. Et depuis un certain temps, l'opposition ne cesse d'attirer l'attention, de demander même avec beaucoup d'énergie la mise en place de cette nouvelle ANE. Et voilà, les choses ont évolué jusqu'à ce que finalement cette nouvelle ANE, la décision a été prise.
Pour qu'elle soit. Il a prêté serment hier avec le nouveau membre.
Effectivement, mais nous avons noté suffisamment d'irrégularités et des incohérences dans la procédure qui a conduit carrément à la mise en place de cette nouvelle ANE. C'est pour cela que nous tenons à soulever cela, à relever, quitte à ce qu'on puisse même aller devant les juridictions pour essayer de clarifier voilà ces irrégularités et ramener les choses sur les rails.
Effectivement, on va revenir sur cette question pour comprendre qu'est-ce qui vous a motivé sur 11 membres. Est-ce que tout le monde ne répond pas aux critères en éligibilité?
D'abord, autour de la table, Armando, il y a également la société civile qui réclame l'audit du fichier électoral. Monsieur Paul Cressan-Beninga, vous représentez le groupe de travail de la société civile qui a demandé l'audit du fichier électoral. Pourquoi aujourd'hui?
Alors, je vous remercie pour la question posée. Nous avons demandé à ce qu'un audit indépendant du fichier électoral soit fait parce que nous estimons que ce fichier électoral, en l'état actuel, pose un certain nombre de problèmes. Je vais revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on entend déjà par audit du fichier électoral? Parce que j'entends les gens dire ça et là qu'il s'agit d'un exercice dilatoire qui vise à obtenir un glissement du calendrier électoral. Non, il ne s'agit pas pas de là. C'est un exercice qui permet en réalité d'évaluer les forces et les faiblesses du fichier électoral et surtout de dégager une conclusion selon laquelle le fichier électoral peut garantir un scrutin serein ou non. Et c'est pour cela que nous avons demandé cet audit, mais les raisons du point de vue factuel sont les suivantes. En réalité, nous avons observé sur les réseaux sociaux et autres qu'il y a certaines personnes, notamment les mercenaires armés, je nomme là Ali Darassa, Abbas Siddiqui, qui se sont fait enrôler sur la liste électorale. Et pour nous, ça vient discréditer la liste, le fichier électoral, d'autant plus que ces personnes citées ne sont pas les seules à se faire enregistrer. En plus d'Ali Darassa, de Siddiqui, il y a également leurs éléments qui se sont fait enregistrer. Et à partir de ce moment, on sait pertinemment que les éléments de ces groupes armés sont constitués à la fois des centrafricains et des non-centrafricains. Et les non-centrafricains, du point de vue de droit, n'ont pas vocation à exercer leur droit de vote sur le territoire centrafricain. Et à partir de ce moment, nous disons, ce fichier électoral peut être effectivement susceptible de garantir un scrutin qui sera contesté. Et donc, nous avons appelé à ce qu'un audit du fichier soit fait. Et comme je dis, ce n'est pas un exercice dilatoire. D'autant plus que ça ne va pas biaiser le processus en cours. L'intérêt de cet exercice, c'est de dégager les forces et les faiblesses, de nettoyer en cas de nécessité et d'arriver à la conclusion selon laquelle ce fichier électoral peut garantir un scrutin serein.
D'accord. Autour de la table, nous avons également un représentant du gouvernement, M. Fidèle Ngwandika, ministre conseiller du président de la République. Quel commentaire faites-vous de ces prises de position de l'opposition démocratique et de la société civile?
Je représente les pouvoirs publics. Eh bien, je vois en face de moi un représentant de l'opposition démocratique dite Code 2020 et Dr Beninga qui est le porte-parole de la société civile ici présent.
JTC, oui.
Mais je dis que l'opposition démocratique alias Code 2020 se comporte comme un médecin après la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, on ne ramène pas le corps chez un médecin, on ramène le corps directement à la morgue. Donc je pense que le code 2020...
Et c'est la code 2020, c'est la coalition.
La code de la coalition, merci. La code 2020 est maintenant un médecin légiste. Mais les 11 personnalités qui ont été choisies, cooptées, ont déjà prêté serment hier. Et donc je pense que la code 2020 cherche des prétextes pour boycotter ces élections. Non, pas perturber, parce que elle n'aura pas la possibilité de perturber ces élections. Et donc, nous avons déjà commencé par entendre un des représentants du code 2020, son Excellence, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Oubane, sur vos micros, qui disait que bon, les conditions ne sont pas réunies pour lui pour aller aux élections.
Et ça, il parle à son nom propre.
Non, mais il parle à son
nom
propre.
De son organisation.
Il est quand même membre du CO2.
Non,
l'est plus.
Le ministre des Affaires étrangères n'a jamais signé la charte de la CO2 2020.
Il est de l'opposition démocratique.
Il est de l'opposition démocratique, mais pas membre.
Je vois également un ténor du KNK, le docteur Edetea, qui maintenant nous inonde avec du charabia électoral en disant que le président Bozizé n'est pas poursuivi, qu'il est dans son droit d'aller aux élections. Mais vous dites le contraire. Vous voulez boycotter, le KNK veut aller. Et moi, je ne vous comprends pas. Et
donc, voilà, nous revenons sur le dossier actuel, oui. Allez-y.
Je suis sur le dossier actuel.
Oui.
Le docteur Beninga qui parle de l'audit du fichier électoral, je me demande s'il a déjà le fichier électoral en sa possession, qu'il a traversé de long en large avant de demander l'audit. Lui, c'est le médecin avant la mort. C'est une bonne chose, parce que ils regardent dans les réseaux sociaux, les gens qui ne se reconnaissent pas, qui reconnaissent pas leurs photos, ou peut-être qui ont été enrôlés à Bouérab et qui se retrouvent à Galabadia. Ce sont des erreurs
techniques
qu'on peut facilement corriger. Oui. Donc, il y a un temps prévu pour les corrections au niveau de l'ANE. C'est tout. Moi, je pense que ça, c'est... Les gens s'amusent, ils n'ont rien
merci
à dire.
Merci beaucoup, merci beaucoup. On donne la parole à M. Paul Kassam-Benenga qui voulait réagir rapidement. Oui, sur ce propos. Si vous avez une minute.
Si le ministre m'a dit qu'elle est là pour s'amuser, je ne suis pas là pour m'amuser parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu. Il ne s'agit pas d'un jeu. Quand je parle de l'audit du fichier électoral, je ne parle pas des erreurs qui reviennent tout le temps. Ça arrive, hein. Lorsqu'on est dans le processus électoral, les noms qui sont mal écrits, on n'est pas à ce niveau-là parce que la loi a prévu un mécanisme de ce point de vue-là. Mm-hmm. Mais l'audit du fichier électoral est un exercice à part entière et qu'il va falloir effectivement respecter et faire comprendre aux Centrafricains la nécessité de procéder à cet audit-là. Parce que, monsieur Wandika, il ne faut pas nous laisser un pays avec beaucoup de problème. Voyez-vous, vous le savez très bien que Sidiki, Ali Darassa sont des étrangers. Les éléments qui sont les leurs sont des étrangers. Ils n'ont pas droit de voter. Lorsqu'ils s'inscrivent sur la liste électorale, ce n'est que normal.
Mais c'est normal qu'on
demande l'audit du fichier électoral pour nettoyer. Mais bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit en réalité.
Docteur. Donc, c'est parce que vous avez vu l'enrôlement de Sidiki, de Ali Darassa et certaines personnes dont on doute leur nationalité, que vous demandez l'audit du fichier électoral. Attendez qu'on leur délivre les cartes.
Permettez, monsieur le ministre.
S'enrôler ne signifie pas voter demain. S'enrôler, il peut venir avec une fausse carte d'identité, il peut venir avec un faux passeport,
comment s'en rendre compte pour les éradiquer de la liste électorale?
L'ANE est outillé pour cela. Lorsque vous recevrez la carte électorale définitive, ce qui veut dire que vous êtes autorisé à voter. Mais pour le moment, on n'en est pas là.
Mais vous l'avez dit tout à l'heure que...
S'il vous plaît, calmez-vous.
Non seulement ça, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Fidel Gwandika, que la société civile, Monsieur Paul Kressan-Benenga en l'occurrence, est le médecin avant la mort. Ça veut dire qu'il faut procéder à l'audit avant qu'on ne puisse revenir à l'élection.
Non, l'audit, c'est autre chose. Il y a des vérifications qui seront faites au niveau de l'ANE. D'accord ? Pour voir si tel est centrafricain, tel n'est pas centrafricain, ainsi de suite. La loi le dit. Et donc, si ceux-là ont des faux dossiers, mais ils seront purement et simplement écartés. Voilà.
Calmez-vous, vous allez reprendre la parole, monsieur.
J'aimerais dire que la question de l'audit du fichier électoral, c'est une préoccupation de la coalition de l'opposition démocratique aussi, parce que nous avons déjà saisi, au niveau de la CE 2020, nous avons envoyé une requête à l'OIF et à l'Union européenne pour cette question d'audit du fichier électoral. Pourquoi ? Parce que nous avons demandé depuis le 7 octobre à la présidente de l'ANE de nous donner l'autorisation de visiter le centre de traitement des données, CTD de l'ANE.
Ce qui a été fait.
Voilà. Nous y avons été, nous avons vu ce qui se passe là-bas et nous avons demandé déjà en ce temps au rapporteur général de l'ANE qui nous avait assisté lors de cette visite, afin de nous laisser la possibilité de faire l'audit du fichier électoral. Ce qu'il n'a pas refusé. Quelques jours après, on a écouté sur les ondes de la radio RFI que la présidente de l'ANE juge inopportun, effectivement, faire l'audit du fichier électoral en question. Alors, nous-mêmes, on se demande pourquoi deux discours au niveau d'une même institution, alors que nous constatons très bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas.
Mais vous avez deux discours, vous aussi.
Non.
Vous dites qu'on va aller aux élections le 27, et aujourd'hui, vous dites qu'il faut...
Est-ce qu'il faut aller aux élections avec toutes ces incohérences que nous sommes en train de constater ? Non, mais trop d'incohérences, de problèmes, monsieur le conseiller spécial, chef de l'État.
C'est grave ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'ANE.
Donc laissez-nous le temps d'organiser, d'arranger les choses pour qu'on puisse avoir des élections crédibles.
Oui, merci. Monsieur Kobo, on peut évoluer.
Armando, je voudrais, avec votre permission, dire à Monsieur Mwandika de ne pas faire un amalgame entre les recours qui sont prévus par la loi et ce qu'on appelle l'audit du fichier électoral. Les corrections qu'on apporte sur les noms qui sont mal écrits, la délocalisation de la personne qui s'est inscrite sur la liste électorale, on rentre dans ce qu'on appelle le recours gracieux.
Très bien.
On rentre dans ce qu'on appelle le recours gracieux. Et à côté du recours gracieux, il y a également le recours juridictionnel où on va pas devant les tribunaux pour pouvoir trancher un certain nombre d'affaires.
Tout
mais devant les tribunaux, il va falloir porter, hein, il va falloir soumettre le problème à l'appréciation des juges. Ceci étant, ça ne va pas donner l'opportunité à l'ANE de nettoyer le fichier électoral comme il se doit. Si aujourd'hui, Ali Daras a brandi une fausse carte nationale d'identité qui atteste qu'il est centrafricain et qu'il se fait enregistrer, l'ANE n'a plus la main pour pouvoir l'éjecter de la liste électorale. Il va falloir procéder. Non, je parle en termes des prérogatives qui lui sont dévolues. Je parle en termes des prérogatives qui lui sont dévolues. Et donc, à partir de ce moment, vous conviendrez avec moi que c'est l'audit du fichier électoral qui est important. Je comprends votre inquiétude.
Rien à voir.
Je
ne suis pas, rien à voir.
Permettez, je comprends votre inquiétude. Je ne suis pas dans la logique du dilatoire. Parce que, pour vous, faire le fichier, l'audit du fichier électoral, ça entraînerait le glissement du calendrier électoral. Il ne s'agit pas de ça en réalité.
Non,
est-ce que vous savez que l'audit de fichier électoral, parfois, ça prend moins de 48 heures?
Ouais.
C'est moins de 48 heures. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes inquiet. Armando, avec votre permission, je voudrais revenir sur la
question.
Maintenant, sur le comité.
Plus de, sur le... 2 millions d'électeurs en moins de 48 heures.
Mais Burkina Faso, ça a été fait. C'est les experts. Il y en a. Ils sont formés pour ça.
Est-ce qu'on a les moyens qu'il faut pour vraiment.
C'est gratuit. Il suffit que l'État centrafricain ou l'ANE fasse la demande. Ça va être gratuit.
À qui?
Mais l'OIF peut le faire.
L'OIF a la compétence. Vous mettez toujours ça sur le dos de la communauté internationale.
Non.
Il n'y a pas de sens.
Ça fait partie des acteurs qui participent du processus.
Lorsqu'il s'agit capable pour faire cet audit.
Mais on peut aussi faire avec des centrafricains si on a des experts qui sont indépendants.
Mais commençons d'abord par accepter le principe.
Je vous dis, dans la pratique, généralement, ce sont ces
organisations.
Maintenant, Armando, si vous permettez, je voudrais revenir sur la question du comité.
Parlez un à un pour qu'on vous comprenne.
Si vous permettez, les deux se sont prononcés sur la question du comité qui a été mise en place et dans la Côte 2020 à exiger l'annulation. Je voudrais dire une chose. Pour moi, il faut voir le problème à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur le plan juridique et le second, c'est sur le plan politique. Lorsque vous prenez la loi électorale, la répartition du comité, des membres du comité qui est censé désigner les commissaires a été faite. 5 pour le pouvoir public, 5 pour les partis politiques, majorité et opposition, y compris. Et 5 pour la société civile, toutes tendances confondues. Je veux dire les femmes, les jeunes,
ainsi de suite. C'est ce qui a été déjà fait.
Maintenant, en amont, pour moi, il se pose un problème parce que du point de vue de droit, il n'y a pas de débat. Les pouvoirs publics, il faut faire la distinction entre les pouvoirs publics et même ceux qui représentent la majorité au pouvoir. Mais dans les faits, généralement, il y a une sorte de confusion qui se dégage. Mm-hmm. Ceux qui représentent les pouvoirs publics, très souvent, je dis très souvent, sont de la majorité. On a vu dans le cadre de ce comité où le ministre Djouban, par exemple, est membre du mouvement Cœurs Unis, Evariste Ngamana.
Oui, Djouban Abazen.
Est membre du ministre des Transports.
Et c'est lui le président du comité.
Lui le président du comité. Mm-hmm. Ngamana est membre du MCI et autres. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on va, dans ce comité.
Mais vous avez oublié que M. Guénébem est le rapporteur général.
Oui, j'en viens. Non, le problème n'est pas au niveau de la répartition des postes dans le comité. Je veux dire de la composition de ces éléments. Et donc, la neutralité, à un moment donné, de ces personnes qui représentent le pouvoir public, on peut la remettre en cause, cette neutralité-là. Mais le mal est fait, parce que c'est dans la loi électorale, nous devons respecter la loi. Oui. Et de mon point de vue, on aurait pu résoudre ce problème en amont. Oui. On n'a pas pu le faire. Maintenant,
et ça, vous rejoignez M. Gwandiga qui parle de médecin après la mort.
Maintenant, en aval, non, je ne vais pas lui emprunter, je vais pas emprunter ces termes. Maintenant, du point de vue politique, c'est le second aspect. Ce qui me paraît extrêmement important, ce sont les actions que ceux qui réclament l'annulation doivent mener. Parce qu'il ne s'agit pas de ne se contenter que des déclarations. Je pense qu'il faut aller loin. Et je crois que Salomon a essayé d'aller d'esquisser un certain nombre d'actions. Lorsque, par exemple, on a remis en cause l'authenticité du diplôme d'un des commissaires, moi, je pense qu'on ne doit pas se limiter au niveau de la déclaration. On aurait pu saisir le juge avant qu'il ne prête serment. On aurait pu saisir un juge. On peut avoir un sursis, un jour de référé. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien la procédure. Mais on peut sursoir à la prestation du serment, ne serait-ce que pour ce membre-là, pour voir clair, parce qu'il ne revient pas à ce comité de désignation.
C'est ce que vous avez manqué, les diplômes. C'est ce que vous avez manqué, monsieur.
Et donc, l'opposition, je pense que de ce point de vue-là.
Ça nous a pas manqué. Nous sommes en train de poursuivre. Parce que quand le comité de sélection a siégé pour désigner les commissaires électoraux, il y a un certain nombre d'informations que nous n'avions pas. C'est pour cela que nous avons laissé dérouler le processus pour ne pas bloquer inutilement. Mais une fois après, nous avons reçu suffisamment d'informations qui nous ont fait comprendre que, effectivement, ça a été biaisé avec des irrégularités énormes. Je vais revenir sur plusieurs points. Vous prenez la question, par exemple, de la moralité et de la moralité, de la transparence. Vous prenez encore la question de l'impartialité. de cette équipe qui a été mise en place, mais ça pose énormément de problèmes.
Mais c'est toujours la même question. Pourquoi cela n'a pas été soulevé en amont?
Puisque vous avez vos représentants lors de la mise en place.
Oui, nous avons eu deux représentants. Oui. Deux représentants de la CO2 2020 qui avaient siégé au sein de ce comité.
Et qui ont même apogé leur ceinture.
Ça, ce n'est même pas ça là, le problème. Oui. C'est même pas ça le problème. Le problème, je vous ai dit tout à l'heure ici que nous avons laissé évoluer la procédure tout simplement parce que nous n'avions pas un certain nombre d'éléments. Mais du moment où ces éléments-là sont arrivés, la procédure se sont en cours. Nous allons saisir la justice. Mais et ça, déjà, c'est en cours. Je vous dis que c'est en cours.
Mais vous pensez que déjà les nouveaux 11 membres ont prêté serment.
Mais on peut revenir dessus.
Évidemment, pour cette question, nous allons écouter notre reporter Jean-Fer Nakouina qui a présenté déjà l'information sur la prestation de serment de ces 11 membres hier ici à Bangui.
L'audience de la cour d'appel de Bangui pour fin de prestation de serment de 11 commissaires à l'autorité nationale des élections est ouverte.
C'est par ces mots que le président de la cour d'appel a ouvert l'audience. Il a aussitôt donné la parole au substitut du procureur pour son réquisitoire. Le juge, Benoît Narcisse Foucquio, rappelle aux récipiendaires leur responsabilité devant l'histoire.
Lorsque vous serez appelé à prendre des décisions, à poser des actes dans le cadre de vos fonctions, souvenez-vous des termes solennels prononcés au cours de votre serment. Il va sans dire que le peuple centrafricain attend que l'ANE puisse bien préparer les élections présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales et régionales. Votre responsabilité individuelle sera engagée devant un être suprême et devant tous les compatriotes lorsque le recensement électoral en cours, l'élaboration des listes électorales informatisées, l'impression et la distribution dans les délais des cartes d'électeurs biométriques, l'enregistrement, le contrôle des dossiers de candidature et la publication des résultats provisoires des différents scrutins connaîtront un échec quelque part sur une partie du territoire national.
Après cette intervention vient la prestation de serment individuel des 11 commissaires électoraux à la barre.
Camila Valérie Blondine, répondez.
Je le jure.
Xavier Sylvestre Yungbandi, un des commissaires, mesure la portée de la mission qui les attend.
J'avoue, c'est lourd. On ne tremble pas, mais on sait que bon, c'est lourd. Il faudrait qu'on s'attelle à beaucoup de choses. C'est le moins que je puisse dire.
Bien organiser les élections, c'est le vœu ardent de tous. Mais le premier test, c'est de relever le défi du fichier électoral déjà contesté et se mettre au-dessus de la mêlée. Le député David Yama, en prêtant serment, perd sa qualité de député conformément à la loi.
Merci Jean-Fernand Kouina. Vous étiez à la cour d'appel de Bangui lors de la prestation de serment de ces nouveaux 11 membres de l'autorité nationale des élections. Monsieur Salomon Koubo, vous représentez la coalition de l'opposition démocratique CO2 2020. Maintenant, vous soulevez des irrégularités, mais ces 11 nouveaux commissaires ont déjà prêté serment. C'est quoi la prochaine étape ou qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Concrètement, nous allons saisir le tribunal administratif. C'est en cours, je vous dis. Quand la justice va se prononcer sur la question, mais tout le monde saura ce que la justice va nous donner comme élément, va nous donner comme élément de décision sur notre requête que nous avons déposée. Et donc, c'est comme je vous ai dit, les 11 commissaires électoraux qui ont été désignés ne répondent pas aux différents, si vous voulez, textes légaux qui organisent effectivement...
Vous voulez parler de tous les 11 membres?
Dans la majorité, la majeure partie. Vous prenez par exemple la question des critères de choix de ces commissaires électoraux. La loi dit quoi? La loi dit que pour désigner les commissaires électoraux, il faut les désigner parmi le corps des experts. Des experts électoraux nationaux en matière d'élection. Et ces derniers doivent totaliser au moins 5 ans
d'expérience.
On ne dit pas, et ça là, si vous voulez, c'est un critère qui est impératif. Ils doivent totaliser au moins 5 ans d'expérience dans le domaine. Mais regardez à peu près ces 11 commissaires électoraux. Parmi eux, si vous enlevez, monsieur.
Le qui vous le parle de monsieur.
Du code de 2020.
Non.
C'est monsieur Mourouba ?
Non, pas monsieur Mourouba, monsieur.
Théophile Kouamad.
Voilà.
Tu apportes parole de la Cour pénale spéciale.
Cour pénale spéciale, exact. Oui. Merci. Si vous enlevez ce monsieur, regardez tout le reste. Même le monseigneur François Xavier Yongwande, lui qui a toujours été dans le ministère pastoral, tout et tout, il a eu cette expérience électorale là où pour venir
siéger. Parmi les 11 membres là, quels sont ceux que l'opposition démocratique a choisi ? Parmi les 11 nouveaux commissaires aujourd'hui.
Mais le problème, c'est tout simplement, Cressant Beninga disait tout à l'heure, au début, que tout a été biaisé dès le départ avec un déséquilibre au niveau du comité de sélection. Vous avez les 11 représentants du pouvoir public, mais ceux-là, ils sont carrément inféodés au pouvoir et au MCU. Vous prenez maintenant les 5 membres de la société civile. Il y en a même qui se réclament directement du MCU. Par exemple, Madame Ramadan, la présidente de l'OFC, et ainsi de suite. Au niveau des partis politiques, hein, vous avez deux de l'opposition démocratique.
Non, je vais parler des 11 commissaires de l'ANE actuelle.
J'en viens. Mais le pouvoir a établi une liste qui l'a fait passer. C'est tout. La CE2020 n'a aucun candidat parmi les 11.
Est-ce que la CE2020 a été dupée, selon vous, par le pouvoir ? Si oui, mais pourquoi vos représentants ne peuvent pas carrément claquer la porte ? Et puis après signer
claquer la porte, allez, on va dire que non, c'est toujours la CE2020 qui a boycotté les choses, ainsi de suite.
Donc vous avez déjà
nous avons laissé la procédure continuer normalement, le temps de recueillir tous les éléments de preuve nécessaires pour nous permettre.
C'est déjà pour vous, n'est-ce pas ?
Non, c'est pas tard.
Merci beaucoup, Monsieur Fidel Gwandika, quel commentaire faites-vous de tout ce que vous avez écouté aujourd'hui, hein, les 11 nouveaux membres de l'Autorité nationale des élections ont prêté serment. Est-ce que cette prestation de serment vient couper court aux rumeurs ou bien vient couper court aux pensées, aux difficultés ou bien aux irrégularités constatées par la CEDEAO 2020 ?
Nous sommes dans un état de droit. Et donc, la Cour de 2020 peut saisir le tribunal administratif ou saisir toutes les juridictions du pays pour peut-être annuler cette prestation de service et les actes qui ont été signés pour la désignation de ces 11 membres. Mais j'ai bien compris ici qu'il dit que parmi ces 11-là, il y en a qui ne sont pas de bonne moralité. Donc c'est lui le moralisateur ou au code 2020 ils ont une cellule de pouvoir.
Ce sont les textes qui le disent. C'est des critères. Et
en plus,
monsieur,
est-ce que c'est un concours ? On a demandé les CV de tout un chacun. Il faut avoir tel diplôme. Il faut être nanti de telle connaissance.
Oui, c'est
ça. Il y en a, c'est des cooptations. Il y en a qui relèvent du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Il y en a qui ont été envoyés par la société civile, par l'opposition démocratique, et on ne conteste pas. Mais parler de la moralité. Si on parle ici de la moralité, vous, au niveau du Code 2020, vous avez des candidats qui se réclament candidats de la population. Je prends par exemple parle de la moralité.
Non, ça ne tient pas à votre exemple que vous voulez donner. Je n'ai pas encore donné l'exemple. Commissaire et les commissaires avec les critères, avec les critères de sélection.
Monsieur Kobo,
vous n'avez pas d'argument.
Non, vous n'avez pas d'argument. On va le laisser développer votre
parallélisme. Non, je dis,
on verra comment il va aboutir. Allez-y.
Vous allez déposer plainte. Il y a des candidats au niveau du code 2020, dont on doute de leur moralité aussi. Mais ce n'est pas à nous, représentants des pouvoirs publics, de la société civile, ou de quelques partis politiques que ce soit, pour trancher cette histoire. Il y a la justice, il y a la Cour constitutionnelle, il y a l'ANE pour regarder tous ces dossiers-là.
Monsieur Fidel,
vous n'allez pas vous subsister
les textes qui le disent, oui. C'est pas nous.
Mais les textes,
Monsieur Fidel Radica, est-ce qu'aujourd'hui,
deux mots avant.
Moi, je ne suis pas juriste, vous non plus. Autant pour moi. Ouais. Ni le docteur Beninga ici Christian.
Il appartient
uniquement aux juristes d'interpréter les textes de loi. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire du charabia pour rien.
Monsieur Fidel Mwandika, est-ce que les 11 commissaires sélectionnés répondent tous aux critères de sélection ?
S'ils ont prêté serment, pour moi, ils répondent aux critères de sélection, un point, un trait. C'est tout.
Monsieur,
ce sont des dignes fils de la nation Et donc, ils vont intégrer l'équipe de l'ANE de manière à ce que le processus électoral continue jusqu'à
son aboutissement. Mais Monsieur Gwandika, excusez-moi, Monsieur Gwandika, le vrai problème qu'a soulevé l'opposition démocratique, la coalition CUD 2020, c'est que les critères d'éligibilité des 11 membres de l'ANE n'ont pas été respectés. C'est-à-dire, aujourd'hui...
Respectés par qui?
Respectés par ceux qui
ont sélectionné.
Par le comité de sélection.
Est-ce que le comité de sélection se plaint? Dites-moi.
Mais les membres du comité de sélection se sont plaints, les représentants de la société civile.
Pourquoi ils n'ont pas claqué la porte?
Non, mais je vous ai dit, mais est-ce que tout... Après, vous êtes prêts toujours à nous accuser que nous sommes prêts à boycotter.
Nous sommes dans un état de droit.
Mais je dis, mais nous sommes en train d'exercer notre droit. C'est pour ça que nous demandons l'annulation la plainte, et la reprise.
Déposer la plainte, on verra la suite.
Ce que j'aimerais dire, si vous me permettez.
Oui, allez-y,
c'est
monsieur.
Que vous voyez, nous avons affaire, excusez-moi le terme, mais avec le pouvoir en place à un comportement des gangsters.
Ah bon?
Je l'ai dit dès le début ici que quand il s'agit des intérêts du pouvoir en place, vous allez voir, le président de la République ainsi que le gouvernement, les gens vont se précipiter pour arranger les choses. J'en veux pour preuve.
Ça, c'est le langage de l'opposition.
J'ai dit ici que le chef de l'État devait prêter serment, après sa prestation de serment, 12 mois après, devait mettre en place toutes les institutions de la République, y compris la nouvelle ANE. Mais vous avez vu la lenteur à laquelle on a procédé à la mise en place de cette nouvelle ANE. Alors maintenant... Je sais, ils ont eu vent.
Ça, c'est expiré déjà.
Ils ont eu vent de tout ce que nous sommes en train de faire. Ils ont précipité les choses pour organiser très rapidement.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire, par exemple? Puisque, comme a dit Rodrigue tout à l'heure, tout a été déjà mis en place.
Non, nous allons nous battre. Nous allons nous battre au niveau des juridictions jusqu'à ce qu'on puisse obtenir gain de cause.
Merci beaucoup, monsieur.
En
2022, vous obtiendrez cause.
Non, vous connaissez votre
réaction
avec votre
très rapidement, monsieur Paul Cresson Beninga.
Alors, je vous remercie. Je trouve que les responsabilités sont partagées.
Oui.
Et que le mouvement qui a résonné ou le pouvoir en place a pu saisir les brèches qui ont été ouvertes par les forces vives de la nation, notamment l'opposition et la société civile, pour pouvoir réaliser ce qu'il conviendrait peut-être d'appeler une forfaiture. Je vais m'expliquer. Voyez-vous, je le dis en amont, il y a un certain nombre d'exercices qui devraient être réalisés. Lorsque les membres du comité de désignation, les noms ont été envoyés au ministre de l'administration du territoire, vu la composition de l'équipe, déjà en amont, les forces vives de la nation, notamment l'opposition, et dans une moindre mesure la société civile, auraient dû et pu contester par des moyens légaux. J'avais donné des exemples ici. Ceux qui ont représenté les pouvoirs publics, ça c'est un fait. Leur neutralité est peut-être contestée. On peut remettre en cause leur neutralité. Parce que ceux qui ont représenté le pouvoir public sont en grande partie membres du mouvement Cœurs Unis. En amont, ça n'a pas été fait. C'est un péché et nous devons l'assumer. Maintenant, il faut comprendre également le comité. Il y a certaines choses qui échappent à la compétence du comité qui désigne. Oui. Je vous donne un exemple. Mmh. La comité n'a pas mandat à vérifier l'authenticité des diplômes. Oui. Lorsque M. Charles Lemassé, je suis obligé de citer son nom.
Oui, mais c'est ce qui
du
a été
temps,
dit.
Non, du temps où Sarandi, l'ancien Premier ministre, était secrétaire général, il aurait invalidé l'authentification de son diplôme.
Vous avez dit il aurait,
oui. Ceci étant, le comité ne peut pas savoir qu'il s'agissait là d'un faux diplôme. Parce que, séance tenant, le comité a travaillé pour 24 heures.
Et selon, ceci étant, selon Gamana, il a présenté un diplôme qui dépasse même master.
Alors, oui, mais vous savez, si vous avez un diplôme qui est faux, une licence qui est faux, ça veut dire qu'on peut remettre en cause votre master, votre doctorat. Si vous avez un bac qui est faux, votre doctorat, on peut même le remettre en cause. Et donc, le comité n'a pas la main. Mais là où je dis même en aval, en amont, si en amont, nous avons péché, que soit l'opposition, que soit la société civile, nous avons péché par manque de vigilance, en amont, je note au sein de la Côte 2020 une lenteur procédurale. Je m'explique très rapidement. La Côte 2020, si elle est dans la dynamique effectivement de demander l'annulation ou de contester effectivement l'authenticité de ce diplôme, je suis entièrement d'avis avec, parce qu'il ne faut pas faire la promotion de la médiocrité ou de ce qui est faux dans la société, mais cela devrait être fait de mon point de vue avant la prestation du serment. Mmh. Ça donnera du poids à cela. Saisir le tribunal administratif, même en référé, l'expression n'est pas appropriée parce qu'il s'agit du tribunal administratif, mais passez-moi l'expression. Saisir le tribunal administratif pour qu'on décide de sursoir, ne serait-ce que à la prestation du serment de ceux qui sont mis en cause, serait déjà un point gagné du côté de l'opposition. Ça n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, ils ont prêté serment. Je trouve que du point de vue factuel, ça va être extrêmement difficile. Ce n'est pas impossible, mais ça va être extrêmement difficile et compliqué.
Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que l'opposition démocratique, au regard de ce développement, est dans la logique de boycotter les élections à venir?
Non,
puisque tout a été déjà fait et vous êtes en retard, comme a dit monsieur.
Non, nous ne sommes pas dans une logique de boycott des élections. Par contre, nous suivons de près l'évolution des étapes, des différentes étapes du processus. Et le moment viendra où on va donner notre position clairement si toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille à ces élections. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser comme ça, aller, excusez-moi le terme, qu'on nous amène à l'abattoir gratuitement. Hein. Donc nous suivons de près l'évolution de toutes les étapes. Et quand ça ne va pas marcher et que nous constaterons qu'effectivement, il faut bloquer, ben on va bloquer.
Monsieur Fidèle Ngwandika, vous avez dit que le comité de sélection ne s'est pas plaint des commissaires qui sont sélectionnés. Mais nous venons d'énumérer un cas ici, monsieur Lemassé.
Mandia.
Son diplôme de licence qui a été jugé pas conforme. Est-ce que avec tout ça là, il devait être parmi les commissaires de l'Autorité nationale des élections?
Est-ce qu'il jouit de comment, la bonne moralité?
Comment si est-ce vrai que M. Lemassé a été nommé? Comment est-ce qu'il a été sélectionné?
D'après M. Paul Cresson-Beninga, le comité de sélection n'a pas cette possibilité
de
vérifier
l'authenticité. Ce n'est pas ma question. Ma question, qui l'a nommé? Qui l'a nommé?
C'est le comité de sélection.
C'est le comité de sélection qui désigne les gens?
Qui l'a désigné, oui.
Ce n'est pas une autorité à part?
Non.
Ah bon? Oui. Alors, si le comité
les 11 commissaires de l'autorité des élections sont sélectionnés par le comité de sélection.
Ministre Lemassé, toute la République est au courant que M. Lemassé avait présenté un faux diplôme, où on aurait retrouvé dans son dossier un faux diplôme.
En 2016,
Mais cette affaire a été déjà réglée.
Non.
Comment? Écoutez.
Allez-y, oui.
Quelqu'un vient de dire qu'il a présenté un autre diplôme.
Oui, selon
il a présenté un autre diplôme. Il a présenté un autre diplôme. S'il a présenté un autre diplôme, c'est à ceux qui ont le droit de faire des investigations sur tous les dossiers de ne dire s'il a un faux diplôme ou
est-ce
pas.
Est-ce que la question c'est de présenter un faux diplôme ou c'est par rapport à la moralité, la pratique?
Non, on ne parle pas. Quand vous dites que quelqu'un a un faux diplôme, c'est vrai, s'il présente un faux diplôme pour prétendre à une fonction, donc il a une moralité douteuse. Ça c'est sûr. Monsieur Lemassé n'a jamais, au grand jamais depuis 2016, utiliser son diplôme de licence ou de quelque chose pour être ministre. Parce que pour être ministre, c'est une nomination. On ne demande pas le CV.
Allez-y, quelques secondes.
Voilà. Et donc, les gens qui étaient contre lui, l'opposition de l'époque qui était contre lui, sont allés jusqu'à exhumer un diplôme qu'il aurait falsifié.
À l'époque.
Donc, ça, c'est de la nomination.
Oui,
donc,
ça vous avez raison, mais sur ce point, il n'y a pas de problème.
Aujourd'hui, il est parmi les 11 membres. Est-ce qu'on a demandé pour être membre de
l'Autorité nationale des élections?
On a demandé des diplômes?
Oui, il y a de niveau plus 4.
La licence.
On ne parle plus de ça.
Je vous réponds.
Non, je vais vous donner une idée, si ça vous va bien. On ne parle plus de ce diplôme. Mais maintenant, on parle de la moralité et maintenant aussi, on parle de l'expérience. C'est sur ce point que l'opposition démocratique.
L'expérience, monsieur Lemassé, depuis 2016.
5 ans d'expérience pour
organiser les élections. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, il a été ministre. Il a été ministre pendant presque 5 ans. Avant d'être ministre, il n'était pas un va-nu-pied, il n'était pas un chômeur. Et quand vous dites.
On parle de l'expérience à la matière.
Oui, en matière électorale. Non, mais c'est les textes, monsieur le ministre. Ce sont les textes.
Oui,
calmez-vous. Bac plus 4.
Oui, finissez rapide.
La licence n'est pas bac plus 4. Il a dû présenter un diplôme.
Ça, c'est bon, mais l'expérience,
la question
qu'il a une
pas
expérience.
De dire, la question, avant de s'il vous plaît.
Quand le problème d'expérience,
ministre, la question n'est pas de dire.
Toujours, hein,
quel est le diplôme qu'il a présenté au comité de sélection?
Bon, mais la question, c'est de dire. Non, c'est le nombre d'années d'expérience.
Cette pratique en amont, ce qu'il avait fait dans le passé de présenter un faux diplôme de licence, est-ce qu'il devait jouir d'une bonne moralité pour être dans l'équipe actuelle de l'ANE?
Vous dites la même chose. Vous posez les mêmes questions pour dire, bon, la moralité. Dans ce pays, je le dis bien haut et fort, tous les gens qui ont accédé à la magistrature suprême de l'État jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une bonne moralité de faire un coup d'État qui est proscrit par la Constitution, qui est un crime imprescriptible? S'il vous plaît,
comment ils changent
vous
de débat?
Non, je ne change pas. Écoutez-moi. Voilà.
Nous parlons d'un cas bien précis. Mais, avec des textes, des critères
merci
de
beaucoup,
sélection.
Merci beaucoup.
On ne vous laisse pas vous aller parler.
Vous dites critères de sélection parce que vous me dites, est-ce qu'il a de l'expérience?
Monsieur le ministre,
l'expérience,
vous n'avez pas d'argument.
C'est vous qui n'avez pas d'argument.
Les Massé, laissez
je ne suis pas là pour défendre Monsieur le Massé. Je ne suis pas là pour défendre Monsieur le Massé.
Vous avez lu le texte qu'il a publié, honnête?
Merci, on avance.
Vous avez lu le texte que Monsieur le Massé
a posé une question. C'est vous qui manquez d'arguments.
Non, c'est vous.
Je vous dis,
je
vous
parle en base d'expérience concernant le nombre d'années d'expérience.
Kobo, calmez-vous.
Oui, en matière électorale.
Oui, même en matière électorale.
Monsieur Kobo, calmez-vous.
Je vous dis,
il va répondre maintenant. Oui, allez-y.
En matière électorale.
Pour être ministre d'un gouvernement. Ministre, je vous dis bien.
Oui.
On demande des grands commis de l'État ou des technocrates qui ont une expérience gouvernementale. Est-ce que tous les ministres qui sont aujourd'hui ministres, membres du gouvernement, qui ont été nommés depuis le 16 mars, ils ont eu un nombre assez étoffé d'expérience en matière gouvernementale? Ce sont les textes qui le disent.
Merci beaucoup. Monsieur Paul Toussaint Benega, vous voulez réagir à ce propos rapidement
Je voudrais réagir en disant ceci à Monsieur Ngwandika. En gouvernance, il y a un principe qu'on appelle le principe d'exemplarité. Et même si aujourd'hui, vous pouvez vous démener pour blanchir Monsieur Lemassé, le simple fait aujourd'hui c'est de ça. Brandir un diplôme qui est faux remet en cause effectivement sa moralité. Vous l'avez dit, vous l'avez dit vous-même, ça veut dire qu'il a une moralité qui est douteuse. Et au nom du principe d'exemplarité, il faut qu'on cesse dans ce pays de faire la promotion de la médiocrité, la promotion de ceux qui ont dépassé effectivement qui viennent. Et là, c'est là où je vous rejoins. Lorsque je dis en milieu politique, il y en a plein. Et c'est pas parce qu'il y en a plein que ça doit être une excuse. Mm-hmm. À un moment donné, il faut nettoyer la scène politique.
Tout à fait.
Il faut nettoyer la scène politique et faire la promotion
de la méritocratie. Ceux qui acceptent par la force pouvoir. Ceux qui piétinent la constitution.
Vous faites une fixation sur une personne. Vous voulez parler de Bozizé qui vous
entre.
Vous parlez de
Dodja.
Oui, mais je veux pas. Je ne vous conseille pas. Permettez. Non, c'est moi qui ai la parole. Je ne vous conseille pas de parler de Dodja. Vous savez pourquoi? Parce que vous lui avez déroulé le tapis rouge quand il est rentré. Alors dans ce cas, ne faites pas une fixation. Ne faites pas une fixation sur une personne. Je vous en prie. Je disais que en ce qui concerne tous ceux qui ont la moralité douteuse, il faut pas juste faire une fixation sur une ou deux personnes. Il faut nettoyer carrément la scène politique. De ce point de vue-là, vous y compris.
La présidente de la transition. Il faut nettoyer tout ça là.
Maintenant.
Voilà.
Monsieur Fidel Ngwandika, laissez le temps. Souffrez pour le président Beninga de finir son intervention. Allez-y très rapidement.
Mais il rit. Il sait que il acquiesce.
Finissez très rapidement.
Calmez-vous.
Alors maintenant, comme je disais, en ce qui concerne les commissaires, vous n'avez pas, j'ai comme impression, je peux me tromper, mais vous me direz, j'ai l'impression que vous n'avez pas connaissance de tout ce qui a été décidé, en fait, tout ce qui a été prévu pour être commissaire. Ouais. Et là, je rejoins ceux de la Côte 2020, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été préalablement établis. Et ces critères ont été préalablement établis dans la loi électorale. Okay. Et les commissaires, je veux dire, les membres du comité de désignation sont censés tenir compte de ces critères pour pouvoir choisir les commissaires électoraux. Je veux bien comprendre.
Je suis bien d'accord avec vous.
Je veux bien comprendre.
Déposer plainte et on va voir la suite.
Je veux bien comprendre que nous avons des difficultés peut-être à avoir 11 experts électoraux en République centrafricaine qui remplissent les critères. Mais je veux également qu'on soit plus ou moins impartial dans le choix. Voyez-vous, on pourrait facilement et valablement remplacer Lemassé. Parce qu'au-delà, effectivement, du fait qu'il ne remplisse pas les critères. En ce qui concerne l'expérience en matière électorale, il a une moralité qui est douteuse et qui est avérée de ce point de vue-là. Du simple fait qu'il a brandi par le passé un diplôme qui est faux.
Les autres
et
sont à partir de ce moment, des moralités douteuses avérées.
Je ne veux pas un débat, un jeu de ping-pong avec vous. Permettez-moi de réagir. Je ne dispose pas des preuves de ce point de vue-là. Vous me connaissez. Ouais. Si j'ai des preuves contre X ou Y, je dirai et je citerai les noms. C'est vous qui faites les fixations sur des gens et vous n'êtes pas à même de citer ces noms-là.
Allez-y. Monsieur Zeneda.
Il n'y a pas que le cas Lemassé. Parce qu'il y a beaucoup de critères. En dehors de cela, j'ai parlé du critère d'impartialité, de neutralité ici. Quand vous prenez par exemple trois de ces commissaires électoraux qui sont des avocats et qui appartiennent tous à un seul cabinet d'avocats, je veux citer Maître Mourouba, je veux citer Monsieur Davi Yama, je veux citer Monsieur Seramale, qui sont tous avocats qui appartiennent à un même cabinet. dont le chef, c'est Maître Mathias Mourova. Vous pensez que ces commissaires-là vont être neutres, impartials, tout en connaissant l'affinité, l'acquaintance de leur responsable numéro 1 avec le MCU? Vous voyez, donc il y a autant de choses, hein. Il y a autant de choses que nous avons relevées et dont nous allons exhumer au moment opportun, dans le cadre même de cette procédure que nous sommes en train de suivre pour pouvoir.
On n'arrive pas à comprendre. Vous étiez là lorsqu'on avait sélectionné ces commissaires-là. Mais qu'est-ce que vous avez fait lors de la sélection de ces 11 commissaires de l'année?
L'honorable Zingas.
Est-ce que vous avez été dupé?
Peut-être une autre question.
Est-ce que l'opposition
a été dupé? Comment on a fait le vote? Comment ils ont été sélectionnés?
Ils ont été sélectionnés par. C'était un vote, hein? Donc, on a amené 81 dossiers. Oui. Sur les 81 dossiers, il y avait eu déjà un premier tri. Hein? Il y avait un premier tri, je crois, on a
pour écarté 27.
Voilà, pour écarté 27, oui. Et puis on a laissé 54, je pense. Oui. Et c'est sur cette base-là qu'on est allé au fond des dossiers pour voir. Mais encore plus grave, je parlais de la neutralité et de l'impartialité ici.
Mais si,
vous avez certains.
Mais si les 11 sont sortis des 50 quelques dossiers, ça veut
laissez,
dire que
laissez-moi,
ils
laissez,
vont être neutres après.
Laissez-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Se passe pas comme ça. On connaît. Vous avez, par exemple, Monseigneur François Xavier Yombandé, dans son dossier, on demande toujours des personnes de référence.
Référence.
Voilà. Lui, il a cité carrément le directeur de cabinet ministre d'État du chef de l'État. Ça donne directement son acquaintance avec le pouvoir.
Non, mais vous avez ils peuvent se connaître avant que le monsieur soit nommé.
Monsieur David Yama, qui, dans son dossier aussi, a renvoyé, hein. Il a fait un renvoi au PAN, il a fait un renvoi au PM et il a fait un renvoi à Madame Léa Akoya Sundumta qui est la coordonnatrice de la plateforme BA Corée. Allez-y comprendre que mais c'est une équipe qui est totalement.
Monsieur Salomon, je reviens sur ma question.
La neutralité pose problème.
Je reviens sur ma question. Il y a 15 membres de commission de comité de sélection.
Oui.
Il y a 54 candidats qui doivent être élus. Parmi eux, on doit désigner 11 commissaires de l'ANE. Comment les 15 membres de comité de sélection ont choisi? C'est-à-dire, chaque personne doit élire qui pour siéger, pour être parmi les 11 commissaires-là?
Non, les 15 qui étaient désignés comme sélectionneurs,
oui.
Ils se prononcent sur chaque dossier. On sort chaque dossier et puis ils essaient de voir les critères, les conditions, ainsi de suite. Mais parfois, je vous dis, l'équipe était déséquilibrée. L'opposition n'était que deux. Après, bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose.
Donc vous consommez alors.
Nous, c'est ce que notre réaction, c'est ça, je vous ai dit. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'avait pas à notre possession, mais comme il fallait avancer dans la procédure, on y allait. Mais maintenant, on est en train de rattraper les choses tout doucement.
Voilà, vous allez vous rattraper.
Ce n'est pas tard. Je vous rassure que ce n'est pas tard.
Oh, d'accord.
Donc, c'est juste une réaction. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec un des éléments ou un des arguments avancés par Salomon Koub. Et cet argument est revenu dans la déclaration de la Côte 2020 au sujet des personnes de référence. Je m'explique. Nous sommes dans un pays où, qui vit avec les soupçons. Parce que ce n'est pas parce que Monseigneur François Xavier prend pour personne de référence le DIRCAP, ça veut dire qu'on remet en cause sa neutralité. Maintenant, si le comité veut savoir pourquoi est-ce que le DIRCAP a été choisi comme personne de référence, il faut appeler, c'est à cela que ça sert. Mm-hmm. Il faut appeler pour savoir pourquoi est-ce que
voilà.
Il vous a mis.
Donc,
je pense qu'il faut qu'on évite le soupçon. Ça m'amène à dire une chose très rapidement, en une minute. Oui, ça m'amène à dire une chose en une minute. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où faire la politique nous amène à créer l'inimitié. Quand vous êtes de l'opposition, comme si vous n'avez plus droit à parler à ceux qui sont du parti au pouvoir. Quand vous êtes de la société civile, vous n'avez pas droit à parler à ceux qui sont de l'opposition ou ceux qui sont de la majorité. Non. Au-delà de la scène politique, ça reste des fils et les filles de ce pays. Et donc, on se connaît tous, surtout que je le dis souvent, la RCA sur le plan superficie est très grande. Mais sur le plan démographique, c'est un petit pays, je vais dire. On est 5 millions. Tout le monde se connaît. Et on se tient tous. Tout le monde se connaît. On se tient tous. Donc, à un moment donné, je pense que on peut aller au-delà et voir le fond du problème. Pour moi, c'est ça qui est extrêmement important. Et l'idéal même serait que le rapporteur de ce comité des sélectionnaires puisse rendre un rapport public. Ça permettrait effectivement de revenir sur ces questions. Pourquoi est-ce que Mgr François avait pris quelqu'un de la présidence comme référence? Pourquoi est-ce que celui-là a pris quelqu'un de la primature comme référence?
Merci beaucoup, Monsieur Fidel Gwandika. À cette allure, est-ce que le gouvernement va vraiment organiser une élection apaisée, crédible et transparente au regard de tous ces arguments, de toute cette irrégularité constatée par l'opposition démocratique?
je suis des pouvoirs publics. Je ne peux dire que seulement que le gouvernement va organiser une élection
pas seulement, hein, mais avec,
crédible, transparente, démocratique. Nous avons un fichier électoral électronique. Nous aurons les cartes électeurs biométriques avec nos photographies collées dessus, où il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, on a fait un saut de grenouille, hein, dans la technologie. Et je pense que le 27, le peuple souverain ira voter le dans la tranquillité.
Il n'y aura pas de contestation.
Hein, non, dans toute élection, il y a contestation. Aujourd'hui, aux États-Unis, les gens votent par correspondance.
Mais si on conteste
le président des États-Unis actuel est en train de dire non, il y a des fraudes, et ainsi de suite. Dans toute élection,
mais il n'aura
il
pas
y a
la
des
crédibilité de gérer.
Mais quelle crédibilité?
C'est lui qui sera
élu. En 2005, comment on a eu les élections? En 2010, c'était comment?
Et donc,
en 1998, c'était comment?
Et donc, c'est la même
l'élection
chose.
L'élection de 2015 était une élection propre. Et aujourd'hui, parce que c'est Toadérico au pouvoir, et les gens disent non, c'était une élection bâclée, on a donné le pouvoir, Samba Panza a donné le pouvoir à Toadera, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est Toadérico au pouvoir, il a amélioré le processus électoral. Et nous irons le 27 dans une élection apaisée. Et gare à celui qui va faire le petit malin pour perturber ces élections.
Monsieur le ministre conseiller...
Voilà, le peuple souverain ne peut plus accepter que des gens qui sont en perte de vitesse viennent perturber. Ils n'ont qu'à boycotter et puis...
Monsieur le ministre conseiller, d'après le corps électoral doit être convoqué 60 jours avant la date du scrutin aujourd'hui. On est presque... à cette date déjà, ça doit être le 27 de ce mois. Est-ce que, avec l'allure où vont les choses là, les listes électorales ne sont pas encore dispatchées dans toutes les préfectures, tout n'est pas encore ficelé avec la gestion du contentieux électoral. Est-ce que vraiment on va aboutir?
Est-ce que hier vous avez été à Damara? À Bora vous avez été à Bora? Vous êtes dans quel quartier?
C'est non, moi.
Alors,
si c'est vous qui
répondez à ma question, monsieur le ministre, c'est moi qui pose les questions, répondez à ma question.
Été affiché.
Vous d'accord. Esquivez la question ou bien?
Non, je n'esquive pas. Je pense que d'ici une semaine, on va demander aux personnalités centrafricaines de déposer leur candidature.
Merci beaucoup.
Et donc,
merci beaucoup. Oui.
Le processus est en marche et ce processus est irréversible.
Merci
nous
beaucoup.
Irons à la bonne
quelques
date
secondes, c'est bon,
au 27 décembre 2017, 2020. Pour élire le président et les députés de la nation.
Monsieur Paul Tosson Beninga, vous voulez réagir?
Non, je voudrais juste apporter une précision parce que ça sème un peu de confusion. Ça sème un peu la confusion chez les Centrafricains. C'est la question de la convocation du corps électoral avant l'affichage de la liste définitive du fichier ou de la liste électorale. Non, je pense que ils ont réglé ça lors du vote qui a permis de réviser la loi électorale.
Exactement.
Après l'affichage de la liste qu'on a eue, on peut convoquer le corps électoral et puis après on reviendra sur la liste définitive. Donc les deux actions ne se tiennent pas.
Je vous remercie.
Oui, monsieur Salomon Kobo Zanedoka, l'opposition démocratique craint un hold-up électoral en cours, c'est ça?
Mais lorsqu'on voit l'évolution des choses, on a le droit de se demander, de s'inquiéter sur l'évolution du processus électoral en cours. Regardez les différentes étapes de ce processus au jour d'aujourd'hui. On nous a rassurés, même la MINUSCA nous a rassurés, qu'il ne va pas y avoir de problème au niveau de la liste électorale. Aujourd'hui, quand vous prenez la liste, les listes qui sont affichées, vous avez plus de 17 000 doublons. Vous avez des irrégularités énormes. Je pense que vous avez appris ce qui s'est passé à Bossangwa, avec la liste qui est affichée là-bas, même dans le premier arrondissement au niveau de Sika et Kolasa. Nous avons relevé toutes ces choses-là.
Et ça, on peut régler, non?
Oui, on peut régler, mais il faut que ça se fasse. On nous a rassuré au début que ça ne devait pas y arriver. Mais maintenant, c'est arrivé.
Est-ce
et c'est comme ça.
Mois, oui.
Non, c'est comme ça qu'on avance avec ces gens-là. Vous voyez?
Ils disent, avec ces gens-là.
Oui, ils disent des choses, Mais après, bon, ils sont incapables de tenir.
Mais aussi,
nous sommes au pouvoir.
Mais aussi, quelle est la stratégie de l'opposition démocratique? On a vu plusieurs prétendants candidats dans votre sang.
Oui, cette histoire-là vous intéresse beaucoup. Mais je vous dis, la question est sur la table, c'est en débat. Et puis, on va aviser.
Choisir un candidat
unique. On va aviser. On va aviser le mot.
Merci beaucoup. Et
c'est
voilà.
Sur ce que nous mettons un terme à notre émission, l'émission Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka. Je vous rappelle que nous avons débattu de la demande de l'opposition démocratique, la coalition de l'opposition démocratique CO de 2020, qui exige l'annulation de la mise en place des nouveaux membres de l'autorité nationale des élections, bien qu'ils ont prêté serment ce vendredi à la cour d'appel de Bangui. Et pour en débattre, nous avons reçu autour de ce plateau Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile et leader du mouvement 4500. Monsieur, merci d'être venu.
Merci.
Nous avons également reçu Monsieur Salomon Kobo Zanedoka, secrétaire exécutif permanent de la coalition de l'opposition démocratique CO de 2020. Monsieur, merci d'être venu.
Je vous remercie aussi.
Autour du plateau également, nous avons Monsieur Fidèle Ngwandika, ministre conseiller spécial du président de la République. Monsieur, merci d'être avec nous.
Toujours au service du peuple souverain. Merci.
Au centre du débat, nous sommes deux, Armando Yangindi et moi, Rodrigue Leroy Benga. À la technique, c'est le service de Tarsis Banga. Nous avons bénéficié de l'appui de Claire Ndombia Samba et Stéphane Flemalé. C'est toute l'équipe Patara. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique.